Bonjour à tous.
Donc voilà une présentation un petit peu en complémentarité avec celle qu'a pu vous faire Julien hier sur les archives sonores. Mais je ne vais pas vous parler que de son, puisque en fait je vais vous parler de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous, là, au cours de cette semaine, vous êtes en train de produire quelque chose, une production audiovisuelle, une production multimédia. Et en concevant ce travail que vous allez présenter devant un public demain après-midi, eh bien, et que nous, donc voilà, que vous allez présenter, en concevant tout ce travail, vous rencontrerez des questions de droit. Et vous savez, des questions de droit d'auteur, de droit de l'image. Et vous savez que nous essayons au Cresson d'archiver les productions des chercheurs et nous vous proposons, en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, aussi de conserver votre travail et d'en faire une valorisation à travers les sites que peut-être vous connaissez déjà, donc le site web du labo, le catalogue de la bibliothèque, Cartophonie qui va vous être présenté en détail. Donc dans ce travail à la fois de conception et ensuite de valorisation, eh bien on ne peut pas décliner tout ce travail-là sans s'intéresser à la fois aux droits d'auteur que l'on peut rencontrer et ensuite aussi s'interroger sur la façon de décrire cette production de visuel que vous êtes en train de concevoir et donc de réfléchir aux métadonnées que l'on peut mettre pour décrire ce document pour ensuite pouvoir le partager au sein de nos outils mais aussi envisager un partage plus large. Donc voilà, vous êtes en train de collecter, concevoir, vous captez peut-être des choses sur Internet, vous produisez votre œuvre qui va être ensuite diffusée. Alors, je vais vous faire trois petits points sur des notions, pour essayer que ça ne soit pas trop rébarbatif. D'abord, si on parle de droit d'auteur, c'est qu'à un moment donné, il y a une œuvre. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que tout est œuvre? Non. Par exemple, l'archéologue... Alors oui, si, avant de commencer mon laïus, je vous ai mis des petites pochettes à votre bureau et sur lesquelles vous allez trouver en fait une copie de ce PowerPoint qui est déjà disponible en ligne sur le blog de la doc. Mais quand même, si vous voulez prendre des notes, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez le noter dessus. Si tout le monde a cette pochette, j'ai essayé de distribuer à tout le monde, mais si ce n'est pas le cas, j'en ai encore ici. C'est tout bon. C'est OK. Donc du coup, voilà, si on parle de droit d'auteur, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des œuvres et des auteurs. Donc qu'est-ce qu'une œuvre? Bien, on peut dire que l'archéologue n'a pas de droit d'auteur sur ses découvertes, que si vous prenez une photo d'un tableau dans un musée ou que vous en faites un scan, eh bien, ce n'est pas une œuvre puisque ça déploie des éléments techniques. Et ça, il faut que je le dise tout doucement, un preneur de son n'est pas l'auteur des chants d'oiseaux et des bruits de la nature qu'il enregistre. Donc dans le code de la propriété intellectuelle, un enregistrement sonore pris dans la rue, dans la nature, etc., eh bien il y a un appareillage technique, mais on n'a pas de droit d'auteur là-dessus. Donc, et les idées ne sont pas des œuvres non plus. C'est la concrétisation de ces idées qui donne le statut d'œuvre. Donc les idées, elles circulent, elles sont de libre parcours. Par contre, la façon de les formaliser, de les écrire, que ce soit dans une photo, une vidéo, une carte, un plan, un croquis, un bâtiment, un discours, un écrit scientifique, ça, c'est une œuvre de l'esprit et c'est ça qui est une œuvre. Alors du coup, qui c'est qui est l'auteur de ces œuvres de l'esprit? Donc là, actuellement, vous travaillez par groupe de 3, de 5 et vous réalisez un document multimédia. Eh bien, il s'agit d'une œuvre de collaboration et vous allez mesurer justement qu'est-ce que vous avez comme rôle les uns par rapport aux autres. Et si vous travaillez à part égale, si vous êtes co-auteur, eh bien, c'est une œuvre de collaboration. S'il y a un chef de projet et que vous participez, ça peut être une œuvre collective. Et si vous utilisez des matériaux que vous pouvez capter ailleurs, sur Internet, ou d'autres qui ont déjà été faits par d'autres, eh bien, vous faites une œuvre composite. Alors peut-être que l'œuvre que vous êtes en train de concevoir est à la fois une œuvre de collaboration et aussi une œuvre composite. Et qu'est-ce que c'est ce droit d'auteur? Eh bien, ce droit d'auteur, en fait, c'est des mots peut-être que vous connaissez déjà, c'est à la fois qu'est-ce que c'est ce droit ? C'est l'auteur, il conserve pour toujours des droits moraux sur son œuvre. C'est pour ça qu'en tant que jeune chercheur que vous êtes peut-être, ou professionnel, quand vous écrivez quelque chose, eh bien, et que quelqu'un réutilise votre travail, il vous cite. Donc c'est ce droit moral qui fait que, en fait, cette citation, elle doit être toujours faite. Elle est obligatoire et éternelle. Par contre, l'auteur, il dispose aussi de droits patrimoniaux. Justement, cette idée que si on veut reproduire son œuvre, la représenter, la traduire, la numériser, eh bien, en fait, on doit lui demander son autorisation. Et ce, 70 ans après la mort de l'auteur. Ensuite, on parle de domaine public, on va le voir. Donc ça veut dire, voilà, pour reproduire, pour traduire une œuvre, on doit demander une autorisation. Mais alors du coup, vous dites, tout ça c'est bien verrouillant, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas bien le droit de faire des choses dans le cadre de notre travail ou dans notre cadre de, peut-être d'action pédagogique aussi, d'enseignement ou de recherche. Alors il existe peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, qui est en fait l'exception pédagogique. Alors comment peut-on faire jouer cette exception pédagogique ? Ben, cette exception pédagogique, ce n'est pas une loi. En fait, ce sont des accords sectoriels, c'est un peu compliqué. Vous avez peut-être entendu parler de la loi d'Adsy, la loi Peillon, qui permet, en fait, dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, mais pour un public comme là, entre nous, pour un public restreint, on va pouvoir utiliser des extraits d'œuvres sans demander l'autorisation. Alors on se dit, super, une grande ouverture, des extraits, c'est bon, on est libéré, on va pas demander sans arrêt des autorisations. Oui, mais finalement, c'est que dans le cadre d'un public comme ça, entre nous, dans un intranet, ou dans une communauté, dans un congrès, par exemple, mais pas directement en ligne. Et ces extraits, qu'est-ce qu'ils sont ? Alors, pour comprendre... ou peut-être sur le fichier, c'est plus en haut. Donc, pour comprendre cette notion d'extrait, c'est quand même pas non plus du délire. C'est-à-dire que les photos dont vous pouvez, ou les images que vous pourriez utiliser, eh bien, elles sont utilisées à basse résolution et un certain nombre dans une production. Des extraits de musique, c'est 30 secondes. Les extraits d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, c'est 6 minutes, pas plus de 10% de la durée. Bon, tout ça, c'est très contraint. Donc, en fait, c'est à la fois quelque chose qui nous donne la possibilité d'utiliser des extraits dans un cadre de public restreint, mais quand même avec des limites qui sont résumées ici et qui ne sont pas si faciles à comprendre quand on se plonge dans les textes. Donc, puisque votre œuvre, à vous, elle est destinée plutôt à être sur Internet, communiquée à un public plus large, et que peut-être vous réutilisez des documents, qu'est-ce que vous avez le droit d'utiliser ? Alors, vous avez le droit d'utiliser les œuvres qui sont entrées dans le domaine public. Donc, en ce moment même, c'est un hasard de calendrier, il y a un festival du domaine public qui se déroule tout le mois avec des animations. Et notamment à Paris, on peut visiter les ateliers de numérisation de Gallica ou ce genre de choses. Donc chaque année, ce festival, il en fait, d'une certaine manière, il fête les œuvres qui sont entrées dans le domaine public. Donc, par exemple, cette année, Mondrian, voilà, toutes ses œuvres tombent dans le domaine public. Donc on va pouvoir remixer son travail, le réutiliser, puisqu'on est libéré de ses ayants droit. Vous avez le droit, évidemment, de citer des documents textuels. Mais ce droit de citation, eh ben, il n'est pas étendu aux images, aux vidéos, etc. Donc quand vous voulez insérer dans un billet de blog ou dans un PowerPoint une photo, eh ben, vous devez demander l'autorisation à son auteur. Donc là, on a mis en ligne en fait, sur le site web, sur le blog, dans une partie qui est consacrée à Halle, un petit formulaire qu'on avait élaboré avec Laure quand elle en avait besoin. Enfin, pour demander l'utilisation d'images, de vidéos, d'extraits de vidéos. Voilà, on a un petit formulaire de demande. Au moins, ça aide aussi le chercheur quand il doit faire ce genre de démarche. Et vous pouvez aussi trouver des documents qui sont des images ou des ressources qui sont libres de droit. Donc, évidemment, par rapport à tout ce courant des droits d'auteur, heureusement qu'on peut s'en libérer et vous devez connaître les Creative Commons, par exemple, qui sont des... Est-ce que vous connaissez ça, les Creative Commons ? Donc voilà, donc il existe, en fait, des façons de se libérer de ce droit d'auteur et de trouver des contenus libres de droit sur Internet. Donc, les licences qui sont proposées par les Creative Commons ou aussi par d'autres structures, comme la licence Cécile pour les logiciels libres ou GNU pour d'autres types de ressources. Donc ces licences, elles permettent en fait d'offrir un cadre légal et de dire, voilà, mon contenu, je le mets en ligne et tu vas pouvoir l'utiliser dans ces conditions-là. Et vous avez des petits pictogrammes souvent. Donc là, il y a un moteur de recherche qui vous permet en fait de pouvoir rechercher des ressources dont le contenu est libre, c'est CC Search. Et vous allez donc pouvoir chercher dans Europeana, dans Flickr, dans SoundCloud, YouTube, des documents qui vont pouvoir être réutilisés, ou en tout cas vous allez avoir les conditions de réutilisation. Donc par exemple, cette magnifique photo, qui peut-être maintenant vous évoque quelque chose, vous qui découvrez Grenoble ou connaissez Grenoble, eh bien on peut absolument l'insérer dans un billet, dans une production, en citant bien sûr toujours son auteur, en donnant un peu des éléments qu'on peut retrouver accompagnant cette page, et en citant la licence qui est associée. Alors, vous ne faites pas que réutiliser des choses qui sont disponibles sur Internet. Vous allez collecter, vous êtes en train, ou vous allez peut-être terminer cet après-midi, la collecte de ressources sur le terrain. Donc, si vous prenez des images, ben voilà, il y a un peu les conseils que j'ai pu glaner pour accompagner le doctorant du labo ou vous-même. Donc, si vous, évidemment, vous prenez des images de personnes se promenant dans la rue, ben, vous avez parfaitement le droit, mais vous pouvez quand même aussi un peu voir comment prendre votre image pour pas que les gens soient totalement reconnaissables. Si on prend des images, par exemple, voilà, des termes de Peter Zumthor, des termes de Valls, eh bien, en fait, Zumthor n'a pas autorisé, par exemple, une doctorante à utiliser des photos dans sa thèse, alors qu'elle lui avait demandé une autorisation et que c'est pour un travail académique. Et donc, elle a dû mettre de toutes petites vignettes de très mauvaise qualité pour accompagner son document, parce qu'il a le droit de dire non, et parce qu'il a le droit, sur sa production architecturale, de s'opposer aux images de sa production. Mais ce qui n'est pas le cas si vous prenez une image des termes, mais qu'en même temps vous prenez la vallée, et qu'il y a un tout petit bout des termes de Val, c'est que la vallée est en fait l'objet principal de la photo. Et donc, si vous collectez des sources sonores et orales, ce qui est sûrement le cas, donc si vous prenez des petits fragments d'environnement sonore urbain, donc on vient de le voir, où il n'y a pas de demande d'autorisation particulière et vous n'avez pas non plus de droit spécifique sur ces prises de son. Si vous enregistrez de la parole, si vous dites « bon, je vais faire un petit entretien et donc du coup enregistrer quelqu'un sur le terrain qui va m'exprimer ses émotions par rapport à ce qu'il voit », ben, ce qui est conseillé, c'est quand c'est un témoignage comme ça pris sur le vif, dans la rue, on ne va pas déployer un appareillage juridique phénoménal. Par contre, ça peut être bien de lui présenter le cadre de votre recherche et puis du coup de lui dire que ça va, ses paroles vont peut-être être écoutées dans un contexte public, et lui dire peut-être au moment où vous captez sa parole, ben, en même temps vous dites est-ce que vous êtes d'accord pour qu'à un moment donné quelqu'un entende vos propos, et vous enregistrez en même temps son accord, comme ça au moins vous êtes tranquille. Alors quand j'ai demandé aux spécialistes de l'ethnomusicologie et du droit si on peut enregistrer quelqu'un qui chante dans l'espace public, qui joue de la musique et tout ça, alors là ils disent ça c'est pas possible, donc vraiment tout ce qui est chant, et qui l'ont fait l'objet d'une interprétation où on récite un conte. Là, on est dans l'ordre du droit des créateurs, les droits des interprètes, et ça, c'est super compliqué. Donc, du coup, elle me disait, même si c'est dans un cadre pédagogique, c'est plutôt pas conseillé. Et nous, on a fait ça, les chercheurs du labo ont enregistré des personnes qui interprétaient des musiques dans l'espace public à Paris, et on les a mis en ligne sur Cartophonie. Donc, bon, en vrai, on n'a pas le droit. Bon, après, personne n'est venu nous pouiller, mais... Bon. Donc voilà, là vous avez vu tous ces éléments-là que vous pouvez rencontrer, qui peuvent à la fois vous freiner, vous interroger, c'est juste pour vous sensibiliser, c'est pas une question de vous faire peur. Mais comme on est dans cette dynamique d'archivage et de valorisation, c'est bien d'en parler. Donc pour mettre en ligne vos productions, qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh bien en fait, on vous demande, et ça, si vous voulez, on peut ouvrir cette petite pochette et voir ce formulaire ensemble. On vous demande d'abord de nous dire qui vous êtes. Vous êtes en groupe, vous allez dire qui vous êtes, vous allez donner vos coordonnées, et ça vous identifie comme auteur de cette production. Et puis, on vous met un certain nombre de métadonnées descriptives. C'est-à-dire, C'est-à-dire que si on veut, à un moment donné, que votre production, elle soit signalée dans une base de données, que ces données, à un moment donné, elles soient partageables avec d'autres bases de données, et que, eh bien, il faut donner des métadonnées, des éléments descriptifs. Donc, on va vous demander de nommer votre production de visuel, de lui donner un titre. On va vous demander de dire qui vous êtes. On va vous dire, est-ce que c'est OK, vous avez utilisé que des documents pour lesquels vous avez des droits dessus ? On va vous demander une date précise, mais pas le 31 janvier. On va vous dire le 31 janvier 2015. Bon, on ne va pas perdre les documents, mais on met l'année aussi. On va vous dire ben, comment, quel type de document c'est. On va vous demander le format, sa taille. Et puis, on va essayer demain de prendre des notes sur la façon dont vous allez présenter votre travail pour essayer de le décrire, ce travail, pour le contextualiser, pour l'expliciter. Et peut-être que vous allez nous aider aussi pour ça, pour leur donner des éléments descriptifs. Donc ça se rapproche à la fois de choses que vous pouvez connaître quand on fait du catalogage de livres ou d'articles, mais aussi ce sont des métadonnées que l'on utilise pour les enregistrements sonores ici. Et du coup, c'est aussi ce travail-là qui a été amorcé par les chercheurs, que nous avons formalisé ensuite ensemble, sur lequel on travaille avec Julien, qui permet de faire aussi la richesse de Cartophonie, puisqu'il va y avoir un résumé, il va y avoir du contenu. Et puis, comme c'est une œuvre, eh bien, on vous dit, d'accord, est-ce que tu m'autorises, moi, Cresson, organisme, à mettre en ligne ton travail et à le communiquer ? Donc, on va vous demander, du coup, de choisir une licence Creative Commons que vous allez choisir pour associer à votre document. Donc, quand est-ce que vous allez remplir ça ? Je ne sais pas, entre la pause café, hein, vous essayez de nous aider. Nous, demain, on prend des notes en complète. Après, on revient vers vous pour vous dire est-ce qu'on a mis les bonnes choses ? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette description de ce contenu ? Et ça, c'est souvent riche parce qu'après, il y a un retour. Ah ben non, on pouvait ajouter ça, etc. Et après, on vous dit où est-ce qu'on l'a mis en ligne et où est-ce qu'il est disponible. Donc, je vous ai mis quelques petits liens pour rebondir, pour aller plus loin, et notamment un lien vers un blog, un carnet d'hypothèses qui est extrêmement riche sur les questions éthiques et droits en SHS. Mais aussi ce site EduSCOL qui est très bien fait pour quand on doit réutiliser des documents produits par d'autres et qui nous donne des bons aiguillages, des bonnes lectures des textes de loi qui sont imbuvables. Et puis du coup, là, je vous ai mis 40 milliards de liens qui correspondent aux activités de la bibliothèque et mes coordonnées si vous avez besoin après de revenir vers nous quand vous repartirez dans vos activités quotidiennes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si...
Il n'y a pas de droit d'auteur que l'artiste peut... De données qui soient payantes auprès de la SCAM, par exemple.
C'est-à-dire c'est justement parce qu'il y a des droits d'auteur et qui sont payants que dans le cas... Alors, attends, si je comprends bien ta question, c'est-à-dire l'exception pédagogique, qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle te dit les auteurs dont les œuvres sont inscrites au CFC, à la SACEM, au PROCIREF, etc., et donc qui... Parce que ces accords sectoriels de l'exception pédagogique, c'est justement contre-rémunération qu'ils ont été faits. Si tu mets ton œuvre à disposition en disant que tu choisis une licence, ça dépend parce qu'il y a la licence utilisation commerciale. Enfin, si tu mets à disposition ton travail en disant vous pouvez le réutiliser dans ces conditions-là, non, il n'y a pas de rémunération dans ce cadre-là.
En fait, c'était pas tant pour la rémunération, c'était pour la protection. Est-ce que l'artiste doit payer pour que son œuvre soit protégée ? Dans quel cas est-ce qu'il doit...
Non. On ne paie pas une licence Creative Commons, c'est disponible pour tout le monde.
Non, mais par exemple, si tu es inscrit à la SCAM, là tu payes.
D'accord. Ouais.
Ça. Mais tu payes par rapport au fait qu'eux vont percevoir et reverser les droits tout concernant. Parce que sinon, la protection de ton œuvre, c'est un droit moral de l'ordre de l'absolu. Tu n'as pas à payer pour que ton œuvre soit moralement protégée. Ah oui. Nul n'a le droit moralement de profaner, je veux dire, ton travail.
Mais des personnes pour te défendre, parce que là,
après, nul n'a le droit d'eux, mais ça ne veut pas dire que personne ne va le faire. Oui.
Parce qu'après, tu peux retrouver ta photo sur un arrêt de bus 10 ans plus tard.
Ça peut arriver. Oui. Non, par rapport aux photos dans l'espace public, non. priori, non. Enfin, ça dépend, c'est la jurisprudence. C'est très compliqué.
Non, mais moi, je parle vraiment d'une œuvre. Tu fais un dessin, par exemple, et tu le mets sur Internet. Donc là, tu as un droit moral de base.
C'est-à-dire de citation, quoi.
Voilà, et partout, tu peux l'utiliser sans te prévenir.
Ben, si. Si justement, si tu choisis pas une, si tu dis encadre pas juridiquement son usage, tout le monde doit te demander pour l'utiliser.
Voilà, en théorie. Et du coup, si quelqu'un fait sans demander l'avis, personne n'est là pour te défendre.
Ah ben.
Ça doit te faire valoir tes droits.
Sauf à faire valoir tes droits. Ouais, d'accord.
Et éventuellement, tu peux te retrouver dans la situation d'avoir à prouver que l'œuvre est la tienne. Si tu ne l'as pas signée, si elle est disponible comme ça librement et qu'il n'y a pas de signature, du coup. La personne qui l'a réutilisé va faire valoir sa bonne foi.
Oui, parce que quand même, on doit prouver, même si on n'arrive pas bien à savoir ou à contacter la personne, on doit prouver qu'on a essayé de la contacter et dire, bon, ben, on a de bonne foi essayé de contacter cette personne. On a essayé par plusieurs moyens, montrer les mails que tu as envoyés pour justifier que tu as fait une démarche. Oui. Il y a des choses qui évoluent justement sur ce droit de citation d'image ou droit de citation de vidéo, mais en même temps, et c'est tellement conflictuel qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut citer une image ou une vidéo sans demander l'autorisation si son utilisation n'est pas déjà donnée et encadrée un peu.
Et pour l'architecture, si on fait un dessin, là, c'est les termes de valse du monteur. Si on fait un dessin des termes de valse.
Mais ça, c'est toi, je pense.
Voilà, là, tu as le temps.
Ça va, ça vous a pas trop noyé ou trop perturbé?
Sur le sujet, c'est plutôt le tout, parce que vous avez parlé un peu de la transcription. Alors, vous avez parlé de l'utilisation de contenu dans le cadre de travaux de. Dans le cadre de recherche ou d'enseignement, et on est typiquement de la production qui est faite dans le cadre de recherche de contenu. Est-ce que, si nous sommes bons, on n'en est pas propriétaire de droit moral de cette production. C'est l'école. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Alors, il y a. Je ne sais pas si je suis assez compétente pour le dire, mais.
Par exemple, en école d'architecture, les projets qu'on a mis dans le cadre de l'école, on ne se pose pas du droit moral.
Du droit d'auteur, du droit moral.
Du droit d'auteur. Ça nous appartient pas.
Ah non, non, non. C'est-à-dire que. Non, le droit d'auteur, il est inaliénable. C'est-à-dire qu'on te cite toi comme étant. Producteur. Enfin, c'est toi qui as fait ce mémoire, tu vois. Ou c'est toi qui as fait ce projet, ou. Non? Ou alors non, c'est intégré dans le cadre.
Tu as la liberté que tu signes, c'est ça, dont tu parles.
Maintenant, ce dont je parle, c'est juste pouvoir réutiliser sa propre production à des fins, enfin, à d'autres fins que celles de l'enseignement. Et dans ce cas-là, il faut en fait l'autorisation de l'école.
Ouais.
Enfin, c'est l'école qui est
propriétaire par rapport aux royalties, aux utilisations commerciales.
Pas forcément commerciales, mais même.
Est-ce qu'on veut maîtriser la production?
En fait, il me semble que c'est la propriété intellectuelle qui est. Enfin, il y a quelque chose que tu ne peux pas céder, il y a quelque chose que tu peux céder.
Mais ce que tu peux céder, c'est les droits patrimoniaux.
En fait, les droits d'exploitation, quoi.
C'est ça. Ça, c'est cessible, alors que ton droit moral.
Ça.
Parce que ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend comment c'est fait. Tu vois, je ne sais pas. C'est-à-dire, du genre, vous êtes un atelier d'archi, vous faites vos projets, vous allez les exposer. C'est ça un peu ta question, c'est-à-dire, du coup on est dans une espèce de collectif, mais après le prof il réutilise ton projet pour son cours, c'est ça un peu ta question, c'est un peu dans ce cadre-là?
Ouais, c'est un peu dans ce cadre-là, où c'est aussi par exemple un architecte qui publie sa monographie en fin de carrière, qui réutilise les projets qu'il a fait en étant étudiant, c'est soumis à l'accord de l'école.
D'accord. Parce que je sais qu'il y a le droit du salarié, par exemple. Nous, on est salarié de la fonction publique, donc en fait, c'est quelque chose de spécial. Les chercheurs sont à part, ils ont ce droit moral, mais moi, je ne suis pas chercheur, et donc en fait, en théorie même, je n'ai pas forcément à signer le travail que je fais parce que je suis salarié de la fonction publique. Donc ça, c'est un statut particulier. Mais du coup, je n'avais pas cherché sur les élèves, donc je ne sais pas bien te répondre. Mais je vais regarder. Par contre, pour les mémoires, Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand vous faites votre mémoire de fin d'année, vous faites vos mémoires même intermédiaires, de quatrième année, je ne sais pas par où vous êtes passé, par quel type d'études. Mais ça, par contre, la bibliothèque vous demande l'autorisation. Vous êtes donc bien droit moral, demande l'autorisation d'utiliser, de mettre en ligne ce document. Et du coup, même y mettre un filigrane pour bien voilà, pour protéger ce travail-là. Mais après, dans le cadre, tu vois, du production.
C'est dans le cadre de rediffusion. Enfin, c'est dans le cadre de la rediffusion institutionnelle par la bibliothèque. Mais en tant que tel,
Ouais, mais je chercherai, je ne sais pas bien te répondre. Ben, c'est, alors, le 1992, alors moi, je pense que c'est peut-être plus ancien, mais moi, ce que j'avais qu'on me date, c'était le code, le droit de la propriété intellectuelle date de 1992. Et donc, et la loi d'AFSI, enfin, l'exception pédagogique et recherche, c'est 2006, un peu amendée par Payon 2013, donc c'est super récent. En même temps, ça évolue aussi avec la pluralité. C'est très inféodé, enfin, c'est très lié au textuel. Et puis après, ça évolue un peu, et c'est un peu débordé par le numérique et tout ça. Et donc, du coup, ils essaient plus ou moins de s'adapter, de faire des accords ou des lois, mais c'est... C'est tout bon ? Oui ? C'est bon ? C'est bon.